C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Bonjour à tous, c'est Charles Cécile. Alors voici, comme promis, la suite des entretiens avec la conteuse Catherine Zarkat, la femme et la tempora. Conteuse des tout premiers temps de ce que l'on a appelé le renouveau du conte en France, elle a forcément beaucoup à dire. Elle nous parle de son répertoire, des souhaits qu'elle fait pour l'avenir de la discipline des arts du récit, de ses envies. Une heure à Paris, en compagnie de Catherine Zarkat, interviewée avec passion, par notre complice Anne-Gaëlle Goduchot.
Merlin aussi, dans les traditions du Graal, arrive comme ça, comme un pauvre type couvert de haillons. On ne devine pas que c'est Merlin. Eh bien, le conte a cette sagesse. Il est caché sous la forme de trucs de grand-mère qui n'ont pas de sens, abscons, ridicules, avec des princesses et des machins qui font des rêves idiots pour les gens et qui sont vraiment hors de propos et qu'il ne s'agit pas de donner à des futurs jeunes cadres dynamiques immédiatement opérationnels qui vont pouvoir préparer leur grande école. Hein ? Et donc, le comte arrive comme un pauvre type, et il parle, il dit trois mots, et ça reste. Ses paroles restent dans les crins du cœur, et du coup, ça reste chez les gens, ça nourrit, ça fonde, il y a quelque chose qui est là, qui donne à penser, qui donne à rêver, qui donne à réfléchir, surtout à rêver quelquefois, et qui crée comme ça un espace de liberté. Et cet espace de liberté est essentiellement subversif.
T'as pas raconté, toi, Merlin ?
Non, mais je flirte beaucoup avec, comme tous les conteurs. Simplement, c'est une longue matière, le Graal, et il faut avoir l'énergie du guerrier. Et moi, je suis plus sur Arthur, tu vois. Mais j'ai plus l'énergie du centré. Mais en même temps, c'est des grosses matières. J'aurais été plus jeune à une époque, j'avais envie. Et puis je me suis pas dirigée là-dessus parce qu'il y avait vraiment beaucoup de chevaliers, beaucoup l'énergie des guerriers. Et je suis partie sur autre chose. Je crois qu'on choisit le répertoire en fonction de ce qui nous est... très profond à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui se cherche. Par exemple, quand j'étais à Salomon, les conteurs me disaient, t'es à ta place, t'es assise là sur ton siège, mais qu'est-ce que tu vas raconter après? Mais il n'y a pas d'après. Tellement c'était unifié, harmonisé avec Salomon, il n'y avait pas d'après. Mais moi, au bout de quelques temps, j'ai senti que l'angoisse du roi Salomon, la fameuse dont parlait Milajar, qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, dans Coëlette, bah, il me cassait les pieds, moi, avec sa peur de la mort. Et c'était les contes chinois que je lisais depuis des années qui est venu me faire la continuation de la route, parce qu'eux, ils ont la route de la réincarnation, une feuille de papier entre la vie et la mort, une relation beaucoup plus souple avec le mouvement. Et c'était par là que je me suis dirigée après Salomon, parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait et qui était ces gens qui mouraient pour quelques minutes et puis qui revenaient. Et c'est extraordinaire, ces histoires-là. Et du coup, je suis allée chercher ça. Et, Et je me suis profondément ouverte à cette tradition et elle m'a fait beaucoup de bien. Je pense que j'ai beaucoup soigné la femme à l'intérieur de moi dans la tradition chinoise parce que la relation à l'homme est équilibrée. Moi, j'avais commencé dans quelque chose de très oriental où il y a beaucoup de déséquilibres qui sont portés dans les... Et voilà. Et puis après, j'ai filé chez les gitans, là, avec le vent. Mais, et après, il y avait, je vais où alors maintenant que je suis avec le vent? Et puis, ben, du coup, j'ai pu attaquer les mythes. J'ai commencé à raconter Krishna, et puis après Isis, et tout ça, j'ai pu dire des mythes. Et puis maintenant, je me sens libre de partout. Et ce conte tibétain dont je parlais tout à l'heure est venu avec la même ampleur traditionnelle derrière. Je ne sais pas pourquoi, je dérange un grand être. Il y a quelqu'un qui se dérange pour me dire de ne pas jeter ce conte à la poubelle, dans l'invisible. Alors j'obéis. Mais voilà, et parce que pour moi c'est ça quoi, c'est raconter, c'est ça. C'est un art qui est à cet endroit-là, dans le cœur... Dans le cœur qui guide la vie, à l'endroit du vivant le plus pur, quoi. Et quand on raconte à cet endroit-là, bien entendu, on peut mieux comprendre qu'on ne peut pas accepter de commande. Des fois, on peut accepter une commande, on va trouver dedans une histoire ou deux qui sont pour nous, mais pas tout le temps, quoi.
Salomon et la reine de Saba aux excellentes éditions Ouïdir.
On raconte que la reine de Saba a préparé pour la visite qu'elle allait rendre au roi Salomon non seulement des cadeaux dont la liste est dans la Bible. Il y a la myrte, il y a l'encens, il y a des bois odoriférants, toutes sortes de choses. Elle a préparé en plus des artistes qu'elle amenait avec elle pour honorer Salomon et pour honorer son peuple. En plus de tout ce monde qu'elle voulait prendre avec elle, elle a réfléchi à des énigmes. Parce qu'à l'époque, quand un roi rencontrait un autre roi, les joutes se passaient en échange de devinettes, énigmes et questions. Et ça fusait, donc il fallait les préparer à l'avance. Et c'était ainsi que les anciens scrutaient l'intelligence, la réactivité de l'autre. Et la reine a préparé avec beaucoup d'attention toute une série d'énigmes. Et ensuite, quand tout ça c'était prêt... Elle est allée voir les grands guides de traversée du désert et elle leur a demandé de préparer la caravane qui convenait pour traverser les trois déserts qui séparaient Jérusalem du pays de Saba et en particulier le Roub al-Khali qu'on appelle le désert des déserts et qui s'appelle dans son autre nom la zone du néant, Roub al-Khali. Et les sages guides lui ont conseillé d'emporter son eau pour ne pas vider l'eau des oasis et donc être bien accueillie par tous les bédouins. Parce que si elle arrivait et qu'à chaque oasis elle vidait tous les puits pour des jours et des jours, elle se ferait rejeter et détester tout le long de la route. Et la reine a trouvé le conseil judicieux, elle l'a suivi. Et les guides lui ont dit aussi « emporte des chamelles enceintes ». Elles mettront au monde des petits chamelons. Vous profiterez du lait en même temps que les petits. Et vous boirez tout le long de la route du lait frais. Et ça maintiendra votre bonne santé. Et elle a trouvé que c'était excellent. Elle a suivi tous les conseils. Et la caravane était immense. Il y a une tradition qui est restée dans le désert où on dit que quand on est assis sur une dune, et qu'on voit passer la première bête, le premier chameau de la caravane de la reine de Saba,
Il faut rester assis 7 fois 7 jours pour voir passer le dernier. Et c'est une imagination que beaucoup de Bédouins proposent aux visiteurs, encore de nos jours. Et la caravane de la reine de Saba s'était lancée, traversant les déserts, s'allongeant. Chacun marchait à pied, à côté de sa bête, pour ne pas la fatiguer. La reine, avec son peuple, marchait à pied. Un jour, elle est arrivée à une oasis. Et elle a fait comme d'habitude, elle s'est installée. Et elle a fait savoir à tous les Bédouins qui habitaient les environs que quiconque connaîtrait une histoire du roi Salomon serait invité à la table de la reine de Saba. Dans ce désert, on a gardé en tradition orale la mémoire du menu qui a été offert cette nuit-là. Émincé de gazelles, délices des prairies dans leur nid d'hirondelle, poulet au citron truffé farci, gâteau au miel, loukoum à la pistache, sorbet citron. Oui, sorbet citron. Parce qu'on est capable dans le désert de faire du sorbet citron, il suffit d'avoir des citrons, parce que la glace est fournie par la nuit gelante dans le désert. Et ça, les Bédouins le savent. Un Bédouin est entré sous la tente. C'était un vieillard. Et il a regardé la reine et lui a souri d'un sourire édenté. Et la reine, immédiatement, a senti qu'elle avait affaire à un sage, un être de grande beauté intérieure. Elle l'a accueilli en se levant et elle l'a fait asseoir. Le vieillard a été très touché de cette grâce de la reine. Et il l'a regardé en souriant et lui a dit « Le vent parle vite, ô reine. Nous savons déjà ici que tu aimes les histoires du roi Salomon. Et j'en connais une. J'ai entendu aussi dire que le menu était tout à fait agréable. » La reine a ri et lui a fait servir les mets les plus apprêtés et les boissons les plus délicieuses. Le Bédouin a mangé et bu comme peut-être il n'avait jamais mangé ni bu de sa vie. Et puis, il a regardé la reine et lui a dit « Reine, l'homme que tu vas rencontrer n'est pas n'importe quel homme. C'est quelqu'un qui cherche une très belle sagesse dans le fond de son cœur. Il en a le rêve intérieur. Et on raconte que un jour, il a saisi dans les affaires de sa famille un objet extraordinaire. On dit que c'est une ceinture qui était faite en cheveux, les cheveux d'Adam, le premier homme, celui qui a été fait des mains de Dieu. Et que Adam avait gardé sa natte, une natte immense, qui servait de ceinture. Et c'est un objet de profonde magie. Cette ceinture, si on en ceinturait le Shaitan, le diable lui-même, qu'on nomme ici le Shaitan, Iblis, le diable, mais ailleurs dans le peuple de Salomon, on le nomme Baal-Zéboul, le maître du quatrième ciel, Belzébuth. Si on le ceinturait, eh bien, il serait dans le pouvoir de celui qui l'a ceinturé. Et Salomon a eu le désir profond d'enfermer le diable pour qu'il ne puisse plus agir sur la terre. Et un jour, qu'il voyait tous les esprits de la nuit travaillaient, il leur a dit « Est-ce que votre chef à tous vient vous voir de temps en temps ?» Et les génies qui étaient à l'ouvrage ont dit que oui. Alors, Salomon l'a attendu. Et quand le Shaitan s'est présenté, Salomon s'est approché de lui et il tenait discrètement dans la main cette ceinture en cheveux de Adam. Et tout d'un coup, il s'est rué sur le Shaitan et il l'a ceinturé. Et il l'a enfermé dans ses prisons. Et le Shaitan ne pouvait pas enlever cette ceinture. Il hurlait, gémissait, mais rien n'y faisait. Salomon restait sourd et il ne le laissait pas sortir. Alors, sur la terre, le monde a changé. Les hommes ne se sont plus occupés des choses du pouvoir. Les hommes ne se sont plus non plus occupés des choses de l'argent. Ce qui intéressait le plus profondément les cœurs de chacun, c'était de méditer et de prier. Et les gens étaient en tranquille méditation, et il y en avait des centaines de milliers. Et le marché, le souk, était vide. Les boutiques étaient fermées. Plus personne ne s'occupait de la vente, ni de l'achat, ni du profit, ni du bénéfice. C'était heureux. Et pourtant, les femmes souffraient, les vaches souffraient. Les femmes, parce qu'elles avaient les enfants à la mamelle et n'avaient plus rien à leur donner à manger, ni à elles pour avoir du lait, ni aux petits qui étaient sevrés, elles sont venues se plaindre auprès du roi Salomon. Salomon leur a fait donner des fruits qui appartenaient à des arbres qui n'appartenaient à personne. Mais malgré tout, ça n'était pas suffisant et puis ça n'était pas durable. Et les vaches, que plus personne n'allait traire, les vaches souffraient. Et pourtant, Salomon regardait le monde et il aimait voir les gens en prière, en méditation, en paix. Un matin, malgré tout, quand il s'est levé, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Il s'est habillé seul, il s'est occupé de ses affaires tout seul, il a appelé des serviteurs, et il n'y avait plus que Benaya, son fidèle ministre, qui s'est approché. Alors, il a demandé à Benaya « Que se passe-t-il ? » Et Benaya a dit « Le palais est déserté. Tous les serviteurs sont allés en prière sur le mont du temple. »« Oh, c'est magnifique !» a dit Salomon. « Mais j'ai besoin de prendre un petit déjeuner. Y a-t-il quelque chose aux cuisines ?» Et Benaya lui a dit « Je vais aller voir. » Mais il n'y avait plus personne aux cuisines. Et il n'y avait rien comme provision. Et Benaya est remonté avec ses informations. Et Salomon a dit « Bon, j'ai quand même besoin de mon café du matin. Est-ce que tu veux aller voir en ville ? La Vartelle est-elle ? Et sûrement il n'est pas au mont du temple. Et tu vas lui acheter de quoi prendre un petit déjeuner et puis tu reviens, je veux commencer à m'occuper des affaires. » Et Benaya est descendu dans la ville chez cet avare tel et tel. Salomon le connaissait bien parce qu'il lui avait sauvé la vie. L'avare, un jour, était tombé dans l'eau. Et tout le monde, le voyant se noyer, lui disait, en lui tendant une main, lui disait « Donne ta main ! Donne ta main !» Et l'avare restait là, bloqué au milieu de l'eau. Et Salomon est passé, et dans sa grande compassion, il a compris cet homme. Et au lieu de dire « Donne ta main », il a tendu son bras en lui disant « Prends ma main ! Prends ma main !» Et l'avare s'est agrippé à sa main. C'est comme ça que Salomon l'a sauvé. Benaya a frappé à cette porte. Et l'avare est venu lui ouvrir lui-même. Benaïa l'a salué et lui a dit « Je viens de la part de Salomon, est-ce que tu as quelque chose à donner à manger parce que nous n'avons plus personne au palais et Salomon a faim et voudrait pouvoir démarrer sa journée. Est-ce que tu peux nous offrir quelques fruits, quelque chose à manger, un peu de café ?» Et l'homme a dit « Oh, je ne m'occupe plus de la vente et de l'achat. »«
Bon, » a dit Benaïa, « toi non plus ?»«
Oh oui, je m'en vais bientôt monter au mont du temple, je n'ai rien dans mes cuisines. »
Mais qu'est-ce que les gens vont faire là-haut?
Oh, ils prient, a dit l'avare, je vais aller aussi.
Oh.
Benaïa est remonté vers le roi Salomon, lui a donné les dernières nouvelles. Et Salomon a dit, viens, on monte au mont du temple. Et ils sont allés tous les deux. Et ils ont vu tous ces gens. Et c'était beau. Mais Salomon a reçu une visite. La visite exceptionnelle du prophète, qu'on appelle dans la tradition juive le prophète Élie, mais qui s'appelle aussi Al-Ridr dans la tradition arabe, cet être-là est immortel. Il apparaît quand il veut, souvent aux plus grands chercheurs de sagesse, dans des moments clés. Et le prophète Élie a regardé Salomon et lui a dit « Mon ami, comment vas-tu ?»«
Bien !»
a dit Salomon. « Et comment va le monde ?»«
Bien !»
a dit Salomon.
« Regarde, tout le monde est en prière sur le mont du temple, n'est-ce pas heureux ?»«
Et comment vont les femmes ?» a demandé à Élie. « Et comment vont les vaches ?»«
Et comment vont les enfants ?»
Et Salomon a soupiré. Élie l'a regardé et lui a dit « Tu as le désir d'une paix sur la terre, mais fais donc attention. Sache que je suis venu avec un ordre d'en haut te signaler que tu dois relâcher le shaitan que tu gardes dans tes prisons. Il ne t'est pas permis de l'enfermer. »
Et Salomon a dit « Mais pourquoi ?
Tu dois laisser la liberté à l'homme de choisir d'aller du côté de la vie ou d'aller du côté de la mort. Tu ne peux pas lui enlever. Tu n'as pas le droit. Qui serais-tu, toi, pour enlever ce que Dieu a laissé à l'homme ?»
Mais a dit Salomon, il se sert mal de cette liberté. Il s'en sert pour faire la guerre, il s'en sert pour faire des abus de toutes sortes.
Ce n'est pas à toi de choisir pour tous les autres. Laisse chacun cheminer à son rythme. C'est un ordre, Salomon. Salomon a compris qu'il ne pouvait enlever la liberté que Dieu avait laissée, le libre arbitre. Il a salué Élie. Il lui a dit, je comprends bien. Merci de cette leçon, Élie. Mais pourtant, je voudrais que le shaitan lui-même sache qu'il est mauvais.
Ça t'est accordé, ça, il n'y a pas de problème. Fais comme tu veux, fais à ton idée.
Et Élie a disparu. Alors, Salomon est descendu dans la prison où attendait le shaitan. Salomon est entré, il a regardé le shaitan et lui a dit « Je vais te délivrer ». Le shaitan a eu un rire éclatant, triomphant. Mais Salomon lui a crevé un œil pour qu'il se souvienne toujours qu'il était mauvais.
Et c'est depuis ce temps-là qu'on parle du mauvais œil.
Quand elle a entendu cette histoire, la reine de Saba a éclaté de rire. D'abord à cause de la drôlerie de l'histoire et aussi à cause du rêve de paix du roi Salomon qui lui a beaucoup plu. Certes, l'homme était intéressant. Elle brûlait de le rencontrer. Alors, le lendemain, la caravane est partie et la route a repris au rythme des chameaux. Thank you.
puisque tu fais partie des gens qui ont initié le renouveau du conte, comme il est convenu de l'appeler maintenant en France, tu dirais que ça a évolué. Comment tu dirais que ça a changé, évolué dans quel, est-ce que tu imaginais il y a 32 ans que ce serait comme ça et qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui arrivent dans ce, dans, qui découvrent le conte et qui arrivent dans ce métier aussi
Alors, moi je suis un peu déçue. Quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de respect pour les conteurs, autant que pour les autres artistes. Et on était considérés comme des artistes. Il y avait l'aura de l'artiste, de l'écrivain, autour du conteur, qu'on trouve chez le maire de la ville ou des choses comme ça, tu vois, voilà, que je peux retrouver en tant qu'écrivain. Mais que j'ai trouvé qu'on avait perdu dans les années 93.
93 ? C'est précis.
Pas avant. Mais vers 90, 93, 94 et suivantes, quelque chose de cette aura du conteur artiste a disparu avec la multiplicité de gens qui sont arrivés et qui n'avaient pas le conte avec eux et qui ont raconté comme ils pouvaient, etc. Donc, l'avantage de ça, ça a été un remaillage de la population. Il n'existe plus d'enfants qui n'ont jamais écouté de conteur. Hein, ça a été très fort. Il y a vraiment des réseaux amateurs, il y a des réseaux professionnels, il y a un remaillage complet. Le conte n'est plus mort et c'est ce pourquoi on a travaillé dans les premières années, c'était ça. Mais on y a perdu la dimension d'artiste, le conteur artiste, qu'on est en train de retrouver avec la création de l'APAC, qui appuie là-dessus.
Alors l'APAC,
association
professionnelle des artistes conteurs.
Voilà. Et en fait, c'est important dans la mesure où moi je fais un travail artistique réel. Hein, et on a besoin d'apprendre à le mettre en valeur, d'apprendre à le montrer, même si on est sur une matière traditionnelle. Et c'est ça qui est un petit peu ambigu.
Et tu dis que ça s'est perdu. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans ces années-là.
Oui, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Tu veux que je dise la vérité ?
Bah, bien sûr.
Sinon. Ça s'est perdu par l'acceptation trop nombreuse de commandes en dehors des sujets que la personne pouvait porter.
Bah, c'est une vérité qui mérite d'être dite.
Et du coup, la personne répondant à la demande pour gagner sa vie a oublié qu'elle avait peut-être une relation à elle-même et quelque chose à dire, et elle a perdu la qualité d'artiste. Ensuite, les conteurs ont été comme ça manipulés, mis en utilisation, utilisés, hein, tout simplement, peut-être pas manipulés, mais utilisés. De plus en plus, de manière jusqu'au délire, hein, sur les thèmes, etc., alors qu'ils avaient peut-être quelque chose à dire. Ça a ouvert la porte à des gens qui travaillaient uniquement comme ça et qui n'ont pas trouvé de ressources intérieures pour fonder un métier de manière durable au plan d'une œuvre artistique dont on peut ressentir de la joie. Et du coup, ça cachetonne, quoi, mais ça, il n'y a pas cette qualité. Et ça, les gens n'en sont pas dupes. Et il y a quelque chose qui s'est perdu. Donc, ensuite, dans le même mouvement, une autre chose s'est perdue, qui était la relation à la matière des contes. C'est-à-dire la capacité de faire sien un récit ancien et à se l'approprier au point qu'il soit aussi vivant qu'on le dit, quand on le dit, qu'un récit de vie. Alors le récit de vie, je sens qu'on est à la fin, que la mode est en train de se passer par excès, mais en attendant, ça a fait beaucoup de mal à la matière des contes. Moi, je fais partie des gens qui ont tenu sur la main, parce que ça ne m'intéresse pas à autre chose, puis parce que pour le récit de vie, j'ai fait le premier. Hein. J'ai fait les Fils du Vent et je suis très fière d'avoir fait ça. Mais quand on regarde dessous ce récit, il y a la trame, la structure d'un conte merveilleux traditionnel.
Catherine Zarcade, Les Fils du Vent, Frémo Édition.
Alors, un jour, j'étais invitée à un endroit, c'était à 100 km de Paris à peu près, un très très beau château, grandiose, froid un peu, mais enfin beau. Et j'arrive et je me promène partout. Puis à un moment donné, je suis entrée dans une pièce. Et bon, je me suis rendu compte que j'étais dans la chambre de la maîtresse de maison. Et je me suis dit, c'est pas grave, après tout le lit est fait, je veux dire, c'est propre. Bon. Et j'ai regardé. Et j'ai voulu regarder un peu partout et je n'ai rien regardé d'autre que ce que j'ai vu là, droit, sur la cheminée. Il y avait là, sur la cheminée, un objet d'une telle puissance que je n'ai vu que lui. C'était une roue en terre, petite, hein, comme ça, très très fine. Elle était dans la terre, mais on l'aurait dit quelque chose qui pouvait être moulé dans l'argent, tellement c'était d'une finesse de travail. On l'aurait dit ciselé dans le jade. Et alors ça représentait une roue, une vieille roue de chariot. Mais au centre, à la place de l'essieu, il y avait un visage. Un visage humain, mais qui était tellement transcendé, tellement pur, comme le visage des anges sur les peintures de la Renaissance. Et puis il y avait les rayons, puis la roue elle-même. Et derrière l'autre côté, il y avait d'autres petits visages. Mais alors c'était, et c'est ça qui était puissant, c'était le visage du centre transformé, masqué. Quand il s'en va, par exemple, là, comme à midi de la roue de chariot, ça s'en allait, mais discrètement, de manière extrêmement subtile, ça s'en allait vers le loup. Alors, ça donnait un peu, si vous connaissez, ces esquisses qui représentent toutes les étapes de la métamorphose de l'homme en garou. Et au milieu, on est encore un peu humain, mais déjà le loup est apparent quelque part comme un rien. Et c'était ça qui était sculpté là. Et puis à côté, c'était ce même visage quand il se masque et s'en va vers un autre visage animal. C'était à peine cernable, hein. Mais enfin, sans doute c'était quelque chose du porc. Et puis là, il y en avait encore un autre et ça partait, ça filait.
Oh, c'était un petit écureuil.
Et puis là, il y avait des bêtes. Je ne saurais pas vous dire toutes les bêtes qu'il y avait. Il m'aurait fallu un bestiaire pour reconnaître vraiment. Je suis sûre qu'il y avait un poisson, parce qu'il y avait quelque chose de la carpe là, dans un qui était là. Il y avait quelque chose de la carpe dans la bouche, vous voyez. Mais il y avait d'autres sortes d'animaux et ça faisait des visages un peu transformés, pourtant encore très très humains. C'était un objet tellement frappant que je suis restée à le regarder, je suis restée à le contempler jusqu'à ce que je me rende compte que je tremble de tout mon corps. Et je me suis dit, c'est un objet magique. Et j'ai été tellement fascinée que j'ai couru. Je suis allée chercher la maîtresse de maison, je l'ai attrapée et je lui dis, viens voir. Et je lui ai montré ça, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais où tu as trouvé ça? C'est un objet magique, je suis sûre que c'est un objet magique. Où tu as trouvé ça? Elle m'a dit, tu l'as bien regardé? J'ai dit, ben oui, je crois. Elle me dit, observe mieux. Et j'ai mieux observé. Ah, c'était elle. J'ai reconnu sa tête d'écureuil. Et le visage du centre, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas cette femme assez pour... J'ai compris que c'était comme le visage de son âme. Et celui-là, je ne le connaissais pas. Mais j'ai reconnu sa tête d'écureuil et j'ai deviné qu'elle devait avoir à certains moments de sa vie tous les autres visages. Je lui ai dit, mais qui t'a fait ça? C'est un objet magique. Et elle m'a dit, écoute, j'ai pas tellement envie de te raconter, d'expliquer quoi que ce soit, mais j'ai bien envie de te faire rencontrer la personne qui m'a fait ça. Alors je dis, ben je veux bien. Mais écoute, on va voir, hein. Je vais téléphoner, on va voir. Vous voyez, des fois, les choses sont simples. Elle a téléphoné, la personne était là. Elle pouvait venir le lendemain.
Et donc, il y a cette nourriture du conte qui, moi, m'a mis en relation, finalement, avec la profondeur de la psyché humaine, avec la diversité sur la Terre des matières, de rêves et des symboles que les gens portent. Je me sentais proche des approches universelles que pouvait avoir Jung, même si je n'étais pas jungienne du tout.
Dans une première vie, enfin dans un premier métier, tu étais psychothérapeute.
J'ai travaillé en institution pendant toute la durée du temps. Non, enfin, pas en institution. Mais j'ai travaillé avec des enfants psychotiques pendant toute la durée de mes études de psycho jusqu'à la maîtrise. Et j'ai arrêté les deux en même temps. Quand j'ai eu ma maîtrise, j'ai arrêté avec les enfants et je suis partie comme conteuse. Mais j'ai en effet appris en même temps, en concret, avec, dans un lieu exceptionnel, 68 arts, bon, de libération de la folie. Et puis en même temps, j'ai appris beaucoup là. Et puis ensuite, ça n'est pas ma vie de psychologue qui est devenue conteuse, tu vois. Non, c'est juste un goût de la nature humaine.
Ouais.
Et cette nature humaine, bien sûr, on peut la trouver chez sa voisine et commencer son récit par la Jeanne, elle, virgule. Elle a un chapeau avec des cerises. Bon, cette manière de commencer le récit de vie est devenue un formatage. On a la virgule, on a le L dans tous les récits de vie. Je m'en amuse énormément avec mes élèves. Bon, je pense que ça va mourir bientôt. Mais vraiment, c'est terrible, quoi.
Il doit y avoir quelque chose, parce que j'ai écouté une émission l'autre jour sur France Culture, où il disait que l'édition, le récit autobiographique, c'est ça qui noie tout le reste. Hein.
Ouais.
C'est vraiment...
C'est pas compliqué. Hein. Nos jours, les gens ont besoin de créer du nouveau et croient que le nouveau se fait en faisant table rase. Alors que moi, je préconise de renouveler et de trouver la lumière des traditions pour garder ce qui est lumineux et enlever les formes archaïques, archaïsantes, les préjugés, les fermetures d'esprit de nos ancêtres qui, en effet, ne sont pas à poursuivre. Et c'est un travail bien plus difficile que de mettre tout par terre.
Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινόρε της αβής για σένα ναι είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Thank you. παράθυρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά μάτια. Πιάς γύρω πια τότε μικρό μου, έξω από το σπίτι σου σε μια γωνιά. Πιάς γύρω πια τότε μικρό μου, έξω από το σπίτι σου σε μια γωνιά.
Et là, elle s'est trouvée devant un très très grand campement gitan. Vous savez, on n'entre pas comme ça dans un campement gitan. On n'entre pas du tout dans un campement gitan. Et elle s'est dit, bon, écoute, tu es venu pour, vas-y, réfléchis pas, tu vas pas te mettre à hésiter à chaque pas maintenant. Hein. Allez, et hop, elle entre. Et là, vous savez, une fois, quelquefois, quand vous avez passé la porte interdite, il vous prend un de ses culots. Elle s'est mise à fureter entre les caravanes, même à regarder dans les caravanes. Hein? Bon, il y avait des rideaux. Vous savez, les gitans ont un sens particulier qui leur est très personnel, de l'opacité. Hein? Et quand ils ont des rideaux, ils ont des rideaux. Elle n'a rien vu du tout, mais enfin, elle pouvait toujours essayer. Hein? Et elle a commencé de regarder à droite, elle regardait à gauche, elle regardait partout. Et à un moment donné, elle s'est trouvée complètement bloquée par un gitan qui lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle l'a regardée et elle s'est troublée. Il lui semblait erratique, comme le gardien de la porte. Il était d'une telle noblesse. Les gitans sont des princes, mais il en est qui sont des rois parmi les princes. Et lui, il avait une telle allure, une telle élégance naturelle, qu'il lui a semblé antique. Et puis aussi, il était beau. Il avait les yeux verts. Un visage d'une finesse et d'une fermeté. Mais surtout, il avait dans les yeux ce qui séduit le monde. Il avait dans les yeux l'immensité qu'on ne trouve que chez trois sortes de gens au monde. Les Bédouins, qui connaissent l'immensité des déserts. Les marins, qui connaissent l'immensité des mers, et les gitans, qui connaissent l'immensité de la terre. Et elle a senti le vent dans ses yeux, elle a senti les sources claires, elle les a comme entendues. Il a fallu qu'il redemande, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle avait perdu tous ses moyens. Elle tremblait. Elle ne savait pas quoi dire. Et comme il fallait quand même qu'elle dise quelque chose, elle a dit n'importe quoi. Ce qui lui est venu. Et ça a été... j'ai perdu mon petit garçon. Voilà. J'ai perdu mon petit garçon. Je suis vraiment désolée. J'étais à la pharmacie. Et nous avons entendu que les gitans étaient arrivés. Et alors, vous savez, à l'école, il a lu des choses sur les gitans. Et ça l'a tellement, tellement, tellement touché. Ça l'a fait rêver. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça l'a fait rêver. Et alors, du coup, il m'a échappé. Et donc, je suis vraiment désolée. Je suis sûre qu'il est chez vous. Si vous me permettez de jeter un œil entre les caravanes, je vais pouvoir le retrouver. Comme ça, il pouvait jeter un œil entre les caravanes. Je ne sais pas si le gitan l'a cru, mais il lui a souri et il lui a dit « Je t'accompagne ». Ils ont commencé de marcher et au bout de 2 minutes, ils se sont mis à parler. Et au bout de 3 minutes, ils ont su qu'ils étaient frères, qu'ils avaient la même passion de l'errance et que ça les rendait frères et sœurs, proches. Ils ont complètement oublié. Elle, qu'il fallait qu'elle fasse semblant de chercher un petit garçon. Lui, qu'il était quand même censé regarder aussi. Et ils se sont mis à parler. Et elle, quand elle parlait, lui, il avait l'impression que c'était lui qui venait de parler. Alors il finissait ce qu'elle venait de dire, et c'était comme si elle s'était exprimée. Et quand lui disait quelque chose, c'était elle qui finissait. Alors ils sont allés comme ça, jusqu'à partager des choses graves, des choses vraies sur soi, des choses qu'on ne se dit que quand on se connaît depuis tant de temps, dans des moments privilégiés de confidence, quand le ciel s'ouvre comme ça. Et là, ça leur était naturel. Et puis, ils ont partagé des rires, ils ont partagé des silences. Ils n'avaient plus envie de se quitter. C'était une vraie rencontre.
Je l'ai créé entre apte et gap pour raconter dans la rue. Avant de commencer ma vie de conteuse, pour voir si je mangerai un beefsteak en gagnant ma vie avec ça.
Tu l'as raconté dans la rue, ça ?
Les prémices de cette histoire et les endroits essentiels, je les ai inventés comme ça dans la voiture.
C'était ton test pour savoir si tu avais décidé que tu allais gagner ta vie avec ça ?
Ouais, et ça commençait comme ça. J'ai perdu mon petit garçon. Je commençais comme ça. Je m'installais dans la rue. Et je disais aux gens, excusez-moi, là j'ai installé mon tapis, mes affaires de musique et tout ça, pour faire un cercle, parce que j'ai perdu mon petit garçon. Et donc, je suis allée chez les flics, et ils m'ont dit qu'il fallait attendre 7h du soir pour retrouver les enfants perdus. Comment ? Et moi, ça me fait peur d'attendre 7h du soir, donc voilà. Et donc, j'ai fait un cercle avec mes affaires, là, comme ça, vous voyez, vous êtes là. Et je vais vous le décrire, il a les yeux verts comme son père, et puis il a les cheveux frisés comme moi. Et puis il a un corbeau sur l'épaule toujours. Il a toujours un corbeau sur l'épaule. Je vais vous expliquer pourquoi il a un corbeau sur l'épaule. Et à ce moment-là, les gens ne me croyaient plus. Et je démarrais la fiction. Et il y avait des gens qui étaient arrêtés. Parce que la pauvre, les trucs comme ça, qui partaient en disant « Pfff, quelle idiote !» Et il y en avait qui restaient en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Et c'est du théâtre de rue, trucs comme ça. Et ils restaient parce qu'ils ne me croyaient pas. Et à la fin de mon petit bout de fiction, qui à l'époque durait 20 minutes, ils me croyaient. J'ai fait très fort. Je me suis amusée énormément. Et après, je l'ai développé. Je l'ai approfondi, j'ai rencontré les traditions gitanes plus sérieusement, et puis j'ai lâché prise, le récit est allé au plus profond de moi, est allé chercher des trucs que moi je savais pas qu'ils existaient, et puis ça a donné Les Fils du Vent tel qu'il est dans la cassette.
Catherine, on était en train de parler de tradition, de modernité, d'épopée, de récits de vie, de contes merveilleux. On parlait tout à l'heure du conte du Genévrier. Est-ce qu'il y a des manières différentes d'approcher ces contes ? Est-ce que certains demandent une expérience plus grande, un âge peut-être ? Qu'est-ce que tu dirais de la manière d'aborder les contes ?
Il y a des contes de tous les pays, de toutes les traditions, de toutes les profondes, de toutes les dimensions. Il y a des choses comme ça, et puis très populaires, très archaïques, qui touchent des points d'acupuncture très précis, et puis il y a qu'il faut dire en conscience, et puis il y a d'autres choses plus simples d'approche, quoi. Moi personnellement, je parle pas du Genévrier à la radio, parce que c'est quelque chose qui doit être précis. Et je vais te dire une chose, c'est pas tout le monde qui raconte ce conte. Simplement parce que pour le raconter, il faut avoir eu affaire à la matière qu'il trimballe. Et ce sont des grandes souffrances humaines. Et donc, on est là dans des mondes qui nous... Bon, on peut pas regarder le conte merveilleux de l'extérieur. Si on fait ça, oui, ça devient...
Je dis ça parce que
Il y a une vraie tendance et même une vraie demande pour que les conteurs reprennent tous ces contes merveilleux en les décalant, en les rendant marrants.
Mais pourquoi ? T'as réfléchi pourquoi ? Parce que ça fait partie d'une certaine aliénation.
Tu peux préciser ?
Ben disons... Il faut réfléchir à ce qu'on nous demande de faire pour les gens. Quand on veut simplifier, schématiser,
décaler,
caricaturer, faire rire sur des choses qui ne sont pas là pour ça et qui ont des fonctions ailleurs. Personnellement, je n'ai rien contre le drôle. On rit dans tous mes spectacles. Je suis quelqu'un, tu vois, vraiment, on rit, mais on rit au bon endroit. Par contre, je suis capable d'aller visiter les profondeurs sombres des contes dont je raconte, que je raconte. Et c'est ça qui donne la force de ce que je fais comme travail. Le décalage, c'est que de la frime, c'est que de la peur. La personne n'est pas allée visiter. Un conte merveilleux qui est traité de la relation au mal, M.A.L. Et le héros était léger et il n'avait pas la solution. Et j'ai aimé le conte parce qu'il était très émouvant. Le héros n'était pas assez fort. Le mal était plus fort que lui. Malgré tout, il vainquait, mais ce n'était pas vraiment un accomplissement. Il faisait ce qu'il pouvait. Et c'était intéressant parce que ça vibrait énormément avec notre siècle. Et après, j'ai donné, par respect du public, le même conte dans une autre tradition où le héros est plus fort et où il fait un sans faute jusqu'à la fin où il aboutit dans la lumière. Pour dire, bon, ça existe, hein, mais c'est un sans faute. Est-ce qu'on en est capable ? Peut-être on n'est pas capable du sans-faute. Peut-être on est plus à être là en train de dire « Mais pourquoi il m'arrive ça ? Mais alors ? Mais qu'est-ce que... Oh, mais je voudrais bien être tranquille !» Voilà. Et du coup, on était plus avec ce petit héros. Mais malgré tout, il était aux prises avec des forces difficiles. Et n'empêche qu'il arrivait à finir par aboutir, mais on n'était pas tout à fait satisfait. Et cette fin était merveilleuse pour notre monde. Mais les choses étaient à leur place. Ce qui est important, parce que ça a été important pour moi, c'est d'apprendre à penser tout seul. Et je trouve que le conte nous y aide. En même temps, moi j'aime créer chez les gens qui m'écoutent et les gens avec qui je travaille un espace intérieur. Ce que Virginia Woolf appelait une chambre à soi. C'est cette base vide, déjà vide, pour créer. Et cet espace pour soi. Et avoir un espace intime, quelque chose qui rend solide et qui empêche d'être voué à tous les vents de l'extérieur. Qui permet d'avoir un petit décalage par rapport à ce qui nous est proposé, de remettre les choses à leur place. Et moi, je trouve que c'est la plus grande résistance que je peux faire au niveau politique, c'est de donner ça, parce que je le fais vibrer sur scène, parce que quand je raconte, je suis sur mon axe, et je donne aux gens cet espace libre, intime, interne, comme sauvé, dans lequel il y a la liberté de se rencontrer, la liberté d'être avec soi, la liberté d'être tranquille, quoi, sur son tranquille chez soi, en soi. Et cet endroit-là crée une solidité face
ouais,
à l'extérieur.
C'est en effet une, il y a en effet une dimension politique là-dedans.
Oui, mais elle est nourrissante. Parce que tu pars avec quelque chose qui te fonde. Tu vois, j'ai vécu dans une ambiance enfant où tout était donné, où tout était proposé, où j'avais du prêt-à-penser et où je pouvais aussi zapper, etc., et me consommer et tout. Et puis je suis allée chercher autre chose et j'ai trouvé, après aller dans des couches et des couches de profondeur, et aussi j'ai rencontré d'autres traditions qui travaillent complètement autrement que nous et d'autres peuples qui sont porteurs de monde moderne, et j'ai rencontré des traditions vivantes qui savent encore transmettre des choses essentielles, et je me suis inscrite dedans. Et donc j'ai énormément bougé dans ma vie. J'ai quitté mes lieux de racine, mes lieux de naissance pour aller chercher autre chose. Bon, j'ai bossé. Et à l'intérieur de tout ça, soudainement, j'ai créé, et je le sens depuis seulement 2 ans, un endroit de paix, hein, où tout est là. Toutes les traditions sont là, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas besoin de forme. Je me sens vivante, présente, tranquille, pas obligée de réagir à tout. Et le « pas obligée de réagir à tout », c'est fondateur. Si tu reçois, tu peux laisser à la porte, tu vois quelque chose, tu n'es pas obligé de t'énerver, tu vois, et puis des fois tu prends, et quand tu prends en conscience.
Tu dis ça, évidemment les gens qui nous écoutent là ne te voient pas, mais alors tu parles de ça et il y a quelque chose de fondamentalement joyeux qui sort des yeux là, c'est très net, très sensible.
C'est la lumière.
Tout d'un coup, ouais.
C'est la lumière.
De joyeux aussi.
Ouais. La lumière est toujours de la joie, avec un grand J.
La reine a regardé le roi Salomon et lui a dit « Ô roi Salomon, je suis venu vers toi, traversant 3 déserts, avec des énigmes et des questions pour scruter ta sagesse. » Et le roi Salomon l'a regardé et lui a dit « J'adore les énigmes, j'adore les devinettes, donne tes énigmes, pose tes questions. » Alors, la reine a présenté au roi Salomon 2 bouquets de fleurs. Le premier était des fleurs artificielles et le deuxième était des fleurs naturelles. Mais ils étaient identiques et de loin indiscernables. Elle a regardé le roi Salomon et elle lui a dit « Roi Salomon, sans t'approcher, dis-moi, quel est le bouquet de fleurs artificielles ?» Et quel est le bouquet de fleurs naturelles ? Le Salomon a dit « C'est facile ». Il a ouvert la fenêtre, il a attendu un instant. Une abeille est entrée, elle s'est posée sur le bouquet. Et Salomon a regardé la reine de Saba et lui a dit « Oh reine Balkis, l'abeille répond pour moi. C'est joli », a dit la reine.
Est-ce que t'aurais un rêve de conteuse?
J'ai découvert un conte tibétain et donc je suis en train de travailler dessus. Il y a quelque chose d'immense, une ampleur, et très lumineux comme ça là, et dans les hauteurs.
Ah, donc c'est ça ton rêve en ce moment?
Et en fait, je voudrais amener ce spectacle-là dans une scène qui soit à sa taille. Et je voudrais finir ma vie, ma carrière artistique, dans des scènes qui soient à la taille de ce que je porte.
Tu veux dire grande?
Ouais. Avec des jeux de lumière, avec la beauté, là. Mm. Tu vois? Je voudrais faire ça. Mm. De changer, de pas être dans les petites scènes, d'avoir aussi cet endroit-là, plus... et de jouer avec la lumière, qui est quelque chose que j'ai jamais fait physiquement sur scène. J'ai envie, je sens comme quelque chose de vaste avec moi, et j'ai envie que cette vastitude soit physiquement présente. Et ça m'amène dans quelque chose que j'ai jamais fait, qui serait très délicat, très fin à faire, et qui mettrait le conte dans une grande beauté, quelque chose qui n'est pas à la mode, hein, ça serait assez pur, assez beau, et en même temps fort, quoi, tu vois. Et ce conte le mérite, et moi-même, j'aimerais arriver à cette ampleur. Je le vis comme une justice qui pourrait être qui pourrait arriver aussi là. Quelque chose de juste, quoi.
Bon, Catherine. Bien. Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Oui. Ouais. Bisous.
Vous avez entendu pour les récits des extraits des Fils du Vent chez Frémaux, de Salomon aux éditions Ouïdir, et pour la musique, Yann Garbarek. Également le groupe Siokan, dirigé par Mireille Trestian, ainsi que la belle Angélique Yonatos. Merci à Catherine Zarkad pour ce moment passé avec nous. Au revoir à tous et à bientôt.
Était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.